Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute.
Bonjour Jean-Michel et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la façon dont l'intelligence artificielle bouscule la géopolitique mondiale et comment les grandes puissances militaires s'emparent de ces technologies. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, revenir sur votre parcours et expliquer ce qui vous a conduit à vous intéresser à l'IA dans les domaines géopolitiques et militaires?
Bonjour Clément, eh bien écoutez, je vous remercie vivement de cette occasion d'échanger, hein, j'y suis très sensible. Alors pour revenir sur cette question, eh bien en fait, moi ça fait très longtemps que je m'intéresse à la dialectique entre les évolutions technologiques et l'évolution des stratégies. En fait, j'ai carrément commencé à travailler là-dessus il y a plus de 25 ans quand je faisais ma thèse sur le système de sécurité nationale et de défense américain, sur le fonctionnement de ce gigantesque appareil. Et ce gigantesque appareil militaire, il a une capacité d'intervention globale qui est sous-tendue par toute une infrastructure technologique. Et cette infrastructure technologique, c'est l'infrastructure à la fois électronique, spatiale, aérospatiale, maritime, terrestre, etc. Et moi, je me suis même retrouvé à Washington au moment où le système américain finalisait l'intégration des capacités numériques et spatiales à l'ensemble des services armés américains. C'est ce qu'on appelait la Revolution in Military Affairs. Et donc, c'est en gros le moment où l'armée américaine a littéralement fait fusionner ses capacités de frappe avec les nouvelles capacités qu'apportait le numérique et qu'apportait Internet. Donc, en fait, moi, j'ai beaucoup étudié notamment la militarisation de l'espace, ce que les stratèges américains appellent le « space power », et cette dialectique de la stratégie et de l'évolution technologique est quelque chose qui m'intéresse profondément depuis longtemps. Et quand mon éditeur donc m'a proposé de rédiger mon bouquin Hyperguerre, qui est sorti donc fin octobre, eh bien ça m'a tout de suite énormément intéressé parce que je suis le déploiement des technologies d'intelligence artificielle depuis 2017 et évidemment ce déploiement qui a lieu depuis les États-Unis, depuis la Chine, la Russie, un certain nombre d'autres endroits, pas si nombreux que ça. Eh bien, ce déploiement, évidemment, il fait l'objet d'une appropriation militaire. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est comment est utilisée l'IA et quels en sont les effets en termes tactiques, opérationnels, stratégiques. Est-ce que c'est un gadget ou bien est-ce que, au contraire, c'est l'introduction de technologies qui vont faire beaucoup évoluer les pratiques de la guerre? Et pour ce que j'observe, on va plutôt rapidement, je pense, vers cette deuxième option, c'est-à-dire une évolution forte et rapide des pratiques militaires et de la façon dont la guerre est menée.
Vous évoquiez justement l'ouvrage que vous avez publié récemment, Hyperguerre. Dedans, vous introduisez un concept, celui d'intelligentisation, pour décrire en fait le déploiement de l'IA dans les appareils militaires et sécuritaires. Est-ce que vous pouvez expliquer ce terme et peut-être dire en quoi, pour vous, il est pertinent pour justement comprendre, illustrer l'appropriation de ces technologies par des puissances comme la Chine ou les États-Unis?
Alors, l'intelligentisation, c'est un néologisme atroce qui n'est pas de moi. Je n'en revendique absolument pas la paternité. C'est un néologisme américain qui vise justement qualifier l'introduction de l'intelligence artificielle dans différentes pratiques, dont les pratiques militaires. D'accord ? Donc, quand on parle d'intelligentisation des armées, on veut parler de la militarisation de l'intelligence artificielle et de l'intégration de l'intelligence artificielle par les armes. Ce sont deux processus qui, en fait, en constituent un seul. Mais cette intelligentisation, eh bien, elle a commencé, mais elle a commencé, nous sommes en 2024, elle a commencé il n'y a pas loin d'une dizaine d'années, hein. Un peu moins, on va dire, ça a commencé vraiment vers 2015-2016, ça a commencé aux États-Unis et en Chine de façon à peu près analogue, hein, ainsi bien sûr qu'en Russie. Et il faut remarquer qu'aux États-Unis, il y a eu une période un peu de scepticisme, hein, de la part de l'armée américaine. Ce scepticisme, il a duré, on va dire, entre 2012, c'est-à-dire la première percée vraiment très forte dans le domaine de l'intelligence artificielle avec les réseaux neuronaux. Et pendant quelques années, il y a eu un débat, et puis ce débat a commencé à être tranché. Et à partir de 2016-2017, tant les Américains que les Chinois que les Russes se sont mis donc à vraiment militariser l'intelligence artificielle de façon exponentielle, hein. C'est-à-dire en mobilisant de plus en plus de moyens humains, de moyens scientifiques, de moyens financiers. C'est ça aussi qui est extrêmement impressionnant. C'est les investissements qui sont faits, qui sont massifs pour l'intelligentisation militaire. Pour vous donner juste un exemple parmi une myriade d'autres, rien que entre 2023 et 2024, le budget du Pentagone, c'est-à-dire du ministère américain de la Défense, a augmenté de plus de 60 milliards de dollars, hein, donc est passé d'à peu près 770 milliards de dollars, ce qui est déjà gigantesque, à plus de 840 milliards de dollars, sachant que l'essentiel de cette augmentation était fléché vers l'intégration de l'intelligence artificielle dans différents domaines.
Et justement, sur ces domaines, est-ce que vous pourriez un petit peu décrire ou expliquer dans quel domaine, à la fois militaire, mais aussi géopolitique, on utilise l'IA et peut-être les usages principaux que vous observez? Et j'aimerais aussi que vous puissiez faire peut-être le lien avec cette notion d'hyperguerre, qui est le titre de votre livre.
Bien sûr. Alors, l'intelligence artificielle, elle est militarisée selon trois grands axes. Le premier axe, c'est l'utilisation de l'IA comme ce que les militaires appellent un multiplicateur de force. C'est-à-dire l'intégration de l'IA à la capacité d'action, à la capacité de feu. C'est-à-dire intégrer l'IA donc pour améliorer le ciblage par les drones, par les missiles, par l'artillerie, par tous les moyens existants pour tous les systèmes d'armes de projeter leur puissance de feu contre un adversaire. D'accord ? Un exemple très concret, c'est par exemple ce qui se passe en Ukraine depuis le début de la guerre fin février 2022. Les forces ukrainiennes sont soutenues par l'OTAN et par un certain nombre de grands acteurs privés américains comme Palantir. Et les drones utilisés par les Ukrainiens produisent énormément de données. Ces données, les flux de données sont analysés en flux tendu par des intelligences artificielles qui peuvent très rapidement ensuite proposer des solutions de ciblage aux opérateurs de drones et améliorer le ciblage, améliorer la coordination, améliorer la rapidité de la réaction et coordonner aussi la puissance de feu, coordonner l'artillerie. Et les résultats, évidemment, font l'objet de retour d'expérience en flux tendu. D'accord. Alors sur l'Ukraine, les différents spécialistes en technologie militaire sont unanimes. Hein. Ce n'est pas l'introduction de l'intelligence artificielle qui va changer le cours du conflit. Cette fois-ci. Et cette fois-ci, c'est très important parce que, en fait, on pourrait littéralement qualifier l'Ukraine de laboratoire de l'intelligentisation des conflits, puisque, évidemment, en face, les Russes ne restent pas les bras ballants et ils ont compris que l'introduction des robots, l'introduction des logiciels de combat, IA, etc., accroissent justement la capacité de frappe. Et eux aussi, donc, se sont lancés dans cette course à l'IA militaire. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le premier pan de la militarisation de l'IA. Le deuxième pan de la militarisation de l'IA, c'est la cyberguerre. Alors la cyberguerre, elle a commencé depuis un moment. Hein. Elle a commencé avec Internet, mais l'IA est en train de changer pas mal de choses de deux façons. D'une part, les arsenaux, les cyberarsenaux sont de plus en plus efficaces et violents. Donc, les logiciels, les malwares, les logiciels malveillants, les virus qui sont mis au point par IA sont beaucoup plus pernicieux qu'ils ne l'étaient avant l'utilisation de ces technologies. Par ailleurs, c'est la CIA qui a remarqué depuis 2-3 ans que les technologies de surveillance hybridées à des intelligences artificielles ont des effets auxquels ils ne s'attendaient pas. C'est-à-dire que dans un certain nombre de pays, comme la Chine par exemple, mais d'autres aussi, eh bien, le fait que les réseaux de surveillance soient amplifier, améliorer l'utilisation de l'IA prédictive, des nouveaux moyens d'analyse, etc., font que, eh bien, en fait, il devient beaucoup plus aisé d'identifier des activités d'espionnage ou d'influence. Et donc, l'IA dans la cyberguerre, eh bien, elle vient aussi renforcer ou interrompre les capacités d'espionnage, de sabotage, d'influence, etc. Ce qui fait que d'ailleurs, les grandes agences de renseignement américaines comme la CIA se sont mises elles aussi à intégrer l'IA, mais alors en flux tendu, massivement, comme le font d'autres agences. Et puis la troisième dimension de la militarisation de l'IA, qui je pense est vraiment neuve, c'est ce qu'un certain nombre de chercheurs appellent déjà la guerre cognitive. Alors, la guerre cognitive, alors on peut se dire que l'influence de l'opinion, la propagande, etc., bon, ça c'est pas neuf, hein, ça fait partie des pratiques politico-stratégiques depuis longtemps. Néanmoins, avec l'IA, les choses sont en train de vraiment changer. Du fait de ce que j'appellerais la militarisation des réseaux sociaux et l'utilisation du deepfake. Donc le deepfake, c'est un des usages de l'IA générative qui permet de produire des images, des vidéos extrêmement réalistes qui deviennent impossibles à distinguer d'une vraie image ou d'une vraie vidéo, d'un véritable enregistrement. Et ensuite, si vous projetez des montages de sons, par exemple, mélangés à des sons deepfake dans des montages qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, eh bien, en fait, vous allez toucher des millions de personnes. Des millions de personnes par le biais de leur téléphone portable. À nouveau, j'ai envie de dire, l'Ukraine a été un fantastique laboratoire de la guerre cognitive et un fantastique laboratoire des deux côtés. Hein. C'est-à-dire que les Ukrainiens multiplier les vidéos pour que l'on pour obtenir donc pour renforcer, pour cultiver la sympathie des opinions publiques occidentales face à l'assaut russe, tandis que les Russes se sont mis à multiplier les deepfakes pour délégitimer un certain nombre de personnalités ukrainiennes. Et là où on voit que l'intelligence artificielle est en train d'avoir des effets politiques extrêmement importants, et ces effets politiques s'inscrivent dans la tenue des conflits.
J'aimerais bien qu'on revienne sur un élément que vous avez abordé sur la guerre en Ukraine, c'est l'utilisation de plus en plus massive des drones. Vous disiez que pour l'instant, ce n'était pas ça qui changeait, enfin, qu'allait changer en tout cas le cours du conflit en Ukraine, mais que c'était un laboratoire d'utilisation des drones et de l'hybridation entre les drones et l'IA. Au regard de votre concept d'intelligentisation, enfin de celui que vous évoquiez, comment vous voyez cette utilisation de plus en plus massive des drones et l'hybridation peut-être entre les deux technologies qui est en train de se développer fortement, notamment en Ukraine?
Oui, alors, les drones, comment dire ça? Bon, des drones, il y en a, les drones eux-mêmes ont été utilisés sur des théâtres d'opération depuis une grosse cinquantaine d'années. Les tout premiers drones utilisés pour faire de la reconnaissance, si je me souviens bien, c'est même pendant la guerre du Vietnam, au début des années 70. Néanmoins, il y a un vrai basculement au début des années 2010, du fait en particulier de la guerre en Afghanistan. Et les forces américaines se sont mises à utiliser de plus en plus les drones et de plus en plus de drones pour obtenir des capacités d'observation et de reconnaissance dans cet environnement montagnard très difficilement pénétrable et très opaque qui est le propre de l'Afghanistan. Par ailleurs, les drones ont été intégrés, et j'ai envie de dire ont été la nouvelle vague de la Revolution in Military Affairs, dans la mesure où donc ces objets volants militaires ont été intégrés donc au système de communication aérospatiale et numérique mis au point par l'armée américaine depuis le milieu des années 90. Et les drones ont vite été identifiés comme un moyen de protéger les forces américaines en permettant d'agir à distance sans que les adversaires comme les talibans ou des unités d'Al-Qaïda en Afghanistan ne puissent répondre directement. Cet avantage des drones s'est largement diffusé ensuite sur le théâtre irakien, et les forces spéciales américaines se sont mises elles aussi à adopter les drones rapidement, puisque justement ça permet une observation à distance, du tir à distance, de la reconnaissance, du recueil d'informations, etc. Donc assez rapidement, en 2, 3, 4 ans, le drone est devenu un élément essentiel des nouvelles façons de faire la guerre du côté américain. Évidemment, ça a été repéré et ça se diffuse partout. Les Chinois, par exemple, sont devenus de très gros producteurs de drones. Il y a des échanges de technologies plus ou moins officielles, plus ou moins permis par l'espionnage, rendu possible par l'espionnage industriel, etc. Et les drones sont vraiment devenus des outils, des systèmes d'armes omniprésents sur les différents théâtres d'opération. Alors en Ukraine, il y a encore une nouvelle révolution qui s'est installée, avec justement donc les drones qui sont mis à être utilisés massivement de façon asymétrique. Alors ce qu'on appelle la guerre asymétrique, c'est tout simplement la guerre du faible au fort. Et il faut toujours partir des moments, des situations, de la réalité du terrain. C'est là qu'on comprend les choses. Et vous vous souvenez peut-être qu'au début de la guerre en Ukraine, donc une colonne de blindés russes est partie de Biélorussie et de la zone de Tchernobyl et s'est approchée de Kiev, ce qui était extrêmement inquiétant. Les forces armées ukrainiennes qui ont voulu répondre aussi rapidement possible sans avoir beaucoup de moyens dans cette région. Et c'est là que les Ukrainiens, qui ont été très créatifs, ont utilisé des drones, notamment pour livrer, en quelque sorte, des explosifs, des grenades, des bombes, etc., pour intercepter cette colonne de chars. Et puis, évidemment, ont aussi utilisé des drones équipés de missiles. Et là, les Ukrainiens, les forces de l'OTAN, les Russes, tout le monde a réalisé que c'était extrêmement efficace. Parce que, en fait, les drones permettent d'intervenir à distance, sont difficiles à intercepter et permettent de multiplier les frappes. Et, par exemple, un char russe, bon ben c'est une grosse plateforme, très solide, très puissante, mais lente. Et une frappe de drone ne va peut-être pas beaucoup l'abîmer. Plusieurs frappes de drone, en revanche, vont finir par le neutraliser. Et cette montée en puissance des drones, elle a montré toute son efficacité aussi en mer Noire, quand les forces ukrainiennes se sont mises à envoyer des essaims de drones contre des destroyers russes en mer Noire et sont même parvenus à couler les principales unités maritimes russes en mer Noire. Or, ce qui a rendu ça possible, c'est que justement les drones peuvent saturer les capacités de défense et multiplier les frappes. D'accord ? Donc, au lieu d'avoir trois grosses frappes qui vont faire boum et vous coulez un destroyer ou vous ne le coulez pas parce qu'il est suffisamment cuirassé pour ne pas être coulé, et bien tout d'un coup, vous avez des dizaines et des dizaines d'engins qui amènent des explosifs et vous avez une multiplication des frappes. Et vous avez une espèce de destruction impressionniste qui a lieu. Par ailleurs, comme je l'évoquais, les drones produisent énormément de données. Et c'est là que la dimension laboratoire de l'IA de la guerre en Ukraine entre aussi en ligne de compte, parce que très très tôt dans le conflit, la constellation de satellites Starlink, donc d'Elon Musk, a été installée au-dessus de l'Ukraine. Starlink a fait livrer des milliers d'antennes relais portatives, ce qui a permis de maintenir l'accès à Internet de l'État ukrainien et de l'armée ukrainienne, et donc de maintenir les communications, etc. Or, le maintien des capacités Internet permet la transmission de données, la transmission par satellite, et permet à d'autres acteurs, comme soit des alliés otaniens, soit à des boîtes privées comme Palantir, qui a été surnommé le Google des espions, de traiter ces flux de données et d'en faire quelque chose, c'est-à-dire d'abord les solutions de tir pour les Ukrainiens, et puis, à mesure que le conflit s'est étendu, de mettre littéralement au point une version électronique du champ de bataille. Cette version électronique du champ de bataille, donc, est littéralement produite par IA et qui permet de suivre et d'anticiper de façon très fine l'évolution du conflit.
Je voulais bien ajouter une petite question sur ce sujet-là de l'hybridation entre l'utilisation des drones et de l'IA. On a vu pas mal de vidéos ces derniers temps sortir sur des drones prétendus autonomes, ou en tout cas où on voyait des drones faire de l'acquisition, soi-disant avec des algorithmes d'intelligence artificielle, notamment pour contrer le brouillage qui peut intervenir et qui coupe le lien entre l'opérateur et le drone. Et donc cette acquisition qui se faisait dans la phase finale et qui permettait automatiquement au drone, une fois qu'il était lancé, de cibler seul et donc de plus pouvoir être brouillé. Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce qu'on a aujourd'hui des drones vraiment autonomes, ou est-ce que c'est quelque chose qui relève encore du fantasme ?
Alors, moi, je ne travaille que sur source ouverte. Je n'ai pas accès aux, au secret défense, et si j'avais accès au secret défense, nous n'aurions pas cet échange. Néanmoins, il semblerait vraiment qu'il y ait des essaims de drones autonomes capables donc, de se livrer à de l'acquisition de cibles de façon autonome. Mais là aussi, il faut revenir sur pas sur un fantasme, mais sur une vision simpliste des évolutions technologiques. C'est-à-dire que l'évolution des technologies n'est pas linéaire. Les technologies, elles s'accumulent. On a des couches et des couches de technologies, mais les différentes couches ne s'annulent pas, ne se suppriment pas les unes les autres. Hein. Pour pousser mon raisonnement, je dirais que si la roue a été inventée il y a plusieurs milliers d'années, elle est toujours très utilisée. Or, en Ukraine, ce que l'on voit, c'est la façon dont, effectivement, l'utilisation des drones par les Ukrainiens a entraîné, amené les Russes à faire des progrès énormes en termes de guerre électronique pour justement casser les liens entre les drones et leurs opérateurs. OK. Donc, pour répondre à cette escalade électronique du côté russe, il y a eu un énorme effort de recherche-développement sur l'acquisition de drones autonomes, de façon à ce que justement ces drones autonomes puissent, comme vous l'évoquiez, échapper à la guerre électronique des Russes. Donc là, il semblerait bien qu'il y ait des essaims de drones autonomes. Ça ne veut pas dire que les autres types de drones et les autres usages des drones ont disparu. Pas du tout. C'est juste une couche technologique supplémentaire. Et en face, évidemment, les Russes doivent être en train de travailler à l'élaboration de contre-mesures. Et là où il y a quelque chose à bien saisir, je pense, en termes stratégiques, sur l'évolution stratégique mondiale dans les mois et les années qui viennent. C'est-à-dire que l'on voit très bien avec ce qui se passe en Ukraine et donc cette escalade entre les technologies qui est aussi, c'est aussi une escalade militaire. Et donc, la recherche-développement et la recherche fondamentale dans les différents champs de l'intelligence artificielle sont complètement mêlées aux dynamiques d'escalade qui ont lieu sur un théâtre d'opération. D'accord ? Ce que je veux dire de façon peut-être plus simple, c'est que les situations de guerre, ça fait longtemps que les situations de guerre sont des accélérateurs technologiques, mais là, cette accélération technologique, elle se fait à un rythme et avec des moyens comme on n'en a pas vu peut-être depuis la Seconde Guerre mondiale. Comme on n'en a pas vu depuis le programme nucléaire pendant la Seconde Guerre, voire plus.
Pour continuer sur l'accélération technologique dont vous parlez, la guerre en Ukraine, mais aussi la guerre à Gaza, ont mis sur le devant de la scène l'utilisation de l'IA, que ce soit avec les drones, la captation de données, le ciblage. Est-ce que vous pourriez décrire un petit peu les principales modalités d'utilisation de ces technologies dans les conflits en Ukraine et à Gaza, et peut-être aussi les limites qu'elles rencontrent, parce que ce n'est pas des technologies infaillibles, et peut-être se projeter un petit peu sur, selon vous, comment ça éclaire les futurs développements de l'IA militaire.
Moi, j'ai rédigé mon livre littéralement entre mars et juillet 2024. Et déjà, rien qu'entre mars et juillet 2024, les situations évoluent à toute vitesse. Là, nous sommes en novembre 2024 et en fait, je vais élargir la réponse que je vais vous faire au Moyen-Orient et non plus uniquement à la guerre de Gaza. Alors, depuis le début de la guerre de Gaza, donc cette guerre déclenchée par le massacre du 7 octobre 2023, l'armée israélienne utilise des intelligences artificielles pour produire des cibles. Le problème, c'est que pour produire des cibles, afin alors les cibles en question, ce sont des responsables ou des acteurs du Hamas dans Gaza, Gaza étant un milieu particulièrement urbanisé. Alors, le problème, c'est qu'il faut bien avoir en tête ce que c'est qu'une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, c'est un algorithme, un réseau d'algorithmes dans des machines, et ces algorithmes font des statistiques et des probabilités. Hein, c'est pas un art divinatoire dans un coin, hein, c'est vraiment, c'est de la production de statistiques. Et dans le cas que vous évoquez, donc, l'armée israélienne utilise l'intelligence artificielle pour probabiliser la présence de tel ou tel responsable du Hamas à tel ou tel endroit, à tel ou tel moment, avec des règles d'engagement qui ont été très fortement accélérées. Et alors, d'un côté, il y a une efficacité militaire, c'est-à-dire que ça permet de produire beaucoup de cibles et de, entre guillemets, hein, j'insiste sur entre guillemets, traiter cibles, mais on est dans un environnement urbain, ce qui fait qu'il y a énormément de dommages matériels et civils. Et ces pertes civiles extrêmement, extrêmement, extrêmement nombreuses, elles ont des effets multiples, hein. C'est-à-dire que d'une part, ça a quelque chose de très dur, très très dur, et mais d'autre part, vous savez, l'intelligence artificielle, on commence juste à en découvrir les effets. Or, la multiplication des frappes dans un environnement urbain entraîne un émiettement de l'environnement urbain, ce qui le rend encore plus difficile à pénétrer par des forces armées. Et ce qui fait la force d'une armée, c'est sa cohésion. Or, plus un environnement urbain est complexe, ce qui est le cas des tas de ruines après les frappes, eh bien, ça rend la pénétration de cet environnement urbain d'autant plus compliquée. Ça, c'est le premier effet contre-productif et inattendu. Le deuxième effet, il se joue dans le domaine de ce que je qualifiais tout à l'heure de la guerre cognitive. C'est-à-dire que le Hamas et ses alliés produisent des images, des vidéos, etc., à partir des souffrances de la population civile de Gaza, et en fait des montages qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Ce qui a des effets extrêmement puissants sur les opinions publiques un peu partout dans le monde, et ce qui a des effets en retour politiques sur le conflit. Et ce que je vous décris là, donc, c'est ce qui s'est passé pendant la première partie du conflit. Maintenant que le conflit s'est étendu au Moyen-Orient, que la tension avec l'Iran a augmenté très fortement, et que l'armée israélienne intervient au Liban, on voit d'autres usages de l'intelligence artificielle qui sont en train d'émerger. Notamment, on voit donc ces séries, enfin ces nombreuses frappes de missiles, de roquettes, de missiles, de drones, vers Israël, qui partent soit du Liban, tirés par le Hezbollah, soit qui partent de l'Iran, faites des décisions militaires iraniennes. Ces frappes de missiles et de drones sont assez largement interceptées par la défense antiaérienne israélienne, qui est multicouche, hein, avec le dôme de fer qui intercepte les projectiles à basse altitude, un autre dispositif à moyenne altitude, à moyenne altitude et un troisième en haute altitude. Et l'ensemble de ce dispositif antiaérien est renforcé par des systèmes d'intelligence artificielle. Mais vous vous rappelez que début octobre, il y a eu une frappe iranienne assez importante de 200 missiles et roquettes qui a été intercepté par la défense antiaérienne israélienne. Mais dans cette frappe, il semblerait qu'il y ait eu 4 missiles hypersoniques iraniens. Là, ça a été, j'ai l'impression, ça a été une vraie surprise que l'Iran maîtrise la technologie des missiles hypersoniques. Les missiles hypersoniques, ce sont des missiles qui vont à des vitesses extrêmement importantes, c'est-à-dire entre Mach 5, ça peut aller entre Mach 5 et Mach 13, c'est-à-dire 5 à 13 fois la vitesse du son. Par ailleurs, les missiles hypersoniques ont cette capacité d'altérer leur trajectoire en fonction de ce que leur radar emporté leur permet de détecter, et ils altèrent leur trajectoire pour néanmoins parvenir à toucher la cible qui leur a été désignée. En d'autres termes, ce sont des missiles pilotés par intelligence artificielle. Ce sont entre guillemets des missiles intelligents. Par ailleurs, le moteur du missile donc, nécessite une gestion de l'injection de carburant extrêmement fine pour maintenir ses vitesses extraordinaires, et le moteur est lui aussi donc monitoré par IA. Donc vraiment, un missile hypersonique, c'est de l'IA embarqué. Et ce que cet épisode met en évidence, c'est à quel point les technologies d'intelligence artificielle sont en train de se diffuser absolument partout, sont militarisées absolument partout, et donc sont utilisées dans les conflits. Que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Libye. En fait, ces technologies et leur militarisation, elle est effective et elle est là dans la guerre, quoi. C'est fait. Alors que ce sont des technologies encore largement expérimentales, eh bien, leur militarisation est en cours, leur utilisation guerrière est en cours.
J'aimerais bien vous poser une question un peu plus macro. On voit depuis assez longtemps maintenant l'utilisation du numérique au sens large et de l'IA plus récemment dans le domaine militaire, avec, si j'ai bien compris, un des enjeux qui est de réduire ce qu'on appelle le brouillard de la guerre, donc cette incertitude qui est inhérente aux opérations militaires, où on n'a pas toutes les informations et donc qui rend la fin des conflits imprévisibles. Est-ce que pour vous, c'est un objectif qui est atteignable grâce à l'IA? Et qu'est-ce qu'on voit des retours d'expérience sur le sujet?
Alors, moi, je ne suis pas ingénieur en IA, je suis donc bien incapable de vous dire si l'objectif qui est de réduire, d'atténuer, voire d'annuler ce qu'on appelle le brouillard de la guerre est atteignable. En revanche, ce que j'observe, c'est qu'il y a des efforts énormes qui sont faits par l'armée américaine, par l'armée chinoise et par un certain nombre d'autres pour effectivement réduire ce que l'on appelle le brouillard de la guerre, c'est-à-dire cette quantité phénoménale d'informations qui est produite par un théâtre d'opération et par une bataille, et ce flux d'informations qui, justement, rend la bataille difficilement compréhensible par les décideurs, par ceux qui sont en charge du commandement et du contrôle de la bataille. D'accord ? Donc, moi, ce que je fais apparaître, c'est que les chercheurs américains et les chercheurs chinois utilisent l'intelligence artificielle pour capter autant d'informations que possible provenant des batailles et des théâtres d'information pour la traiter de façon à ce que le champ de bataille devienne intelligible aux décideurs, hein, c'est-à-dire aux officiers supérieurs, à l'état-major, au chef d'état-major, de façon à ce que le contrôle de la bataille puisse se faire de plus en plus rapidement et surtout de plus en plus efficacement. Et en fait, les chercheurs militaires partent du même principe, j'ai envie de dire, que les chercheurs civils qui travaillent sur le deep learning, le machine learning, etc., en se disant, voilà, la bataille, ça produit de la mégadonnée. La mégadonnée, il nous faut des outils pour la traiter. Alors, là où les choses deviennent terriblement complexes, puisqu'on est dans le domaine, on est dans le domaine militaire et on est dans le domaine de la guerre, c'est que plus on va intervenir sur la bataille, plus la bataille devient complexe. D'accord? Et c'en est au point qu'aujourd'hui, les Américains et les Chinois sont lancés dans la mise au point d'architectures d'intelligence artificielle qui intègrent l'ensemble des forces armées de chacune de ces deux puissances. Du côté américain, ce projet s'appelle le JADC2. Je vais juste rester sur l'acronyme parce que c'est des trucs totalement incompréhensibles, sinon. En fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce qu'on appelle l'armée américaine, c'est la combinaison de l'armée de terre, l'US Army, de la Marine nationale, l'US Navy, de l'armée de l'air, l'US Air Force, et de l'armée spatiale, la Space Force, plus le cybercommandement, etc. Bon, historiquement, ça a toujours été très compliqué de faire travailler ces quatre services armés ensemble. Dans les années 90 et le début des années 2000, la Revolution in Military Affairs avait pour finalité de parvenir à renforcer la coordination entre ces services armés. Et aujourd'hui, avec le programme de JADC2, l'idée, c'est de carrément les intégrer dans une architecture commune. Mais là aussi, ça ne se fait pas tout seul. C'est-à-dire que l'US Army, l'US Navy, l'US Air Force, la Space Force mettent au point leurs architectures IA, s'entraînent énormément. Par exemple, l'US Army multiplie les manœuvres, par exemple les assauts sur des villes fictives, d'ennemis fictifs, en intégrant des drones, des robots, du traitement de l'information à leurs troupes terrestres qui interviennent donc sur une ville fictive. Ils font des retours d'expérience. À chaque fois, le retour d'expérience fait apparaître l'extrême complexité de cette entreprise. Et comme c'est extrêmement complexe, eh bien, ils renforcent leur rythme de manœuvre pour être de plus en plus efficaces dans l'intégration de l'IA par leurs forces armées. L'US Air Force fait de même, l'US Navy fait de même, etc. Et ensuite, le projet donc d'architecture commune, c'est de faire en sorte que les architectures IA de chacun des services armés américains intègrent une grande architecture commune dans laquelle est englobé le Pentagone, c'est-à-dire le ministère de la Défense. Et en fait, à un moment donné, on va avoir une gigantesque structure IA qui imbibe et qui englobe cette entité gigantesque qu'est l'armée américaine. En face, l'État chinois développe une structure analogue sur le principe, puisqu'il s'agit là aussi de faire en sorte que les forces terrestres, aériennes, maritimes, spatiales soient intégrées à une architecture commune. Pour les Chinois, ce défi de l'intelligentisation, il est à la fois industriel et politique. Je m'explique. L'armée chinoise fait l'objet d'une modernisation à marche forcée. C'est-à-dire que l'armée chinoise est plus récente que l'armée américaine et sa modernisation est récente. C'est-à-dire que sa modernisation a vraiment commencé dans les années 80. Mais elle est menée à marche forcée et cette modernisation, c'est à la fois la mécanisation de l'armée chinoise, c'est son informatisation et c'est son intelligentisation. Ce sont les trois processus en même temps. Donc c'est vraiment une entreprise extrêmement complexe qui est menée par l'armée chinoise. Par ailleurs, l'armée chinoise, donc, c'est l'armée populaire de libération. Ce n'est pas une armée nationale à proprement parler, c'est l'armée du Parti communiste chinois. Et ça, c'est une dimension extrêmement importante. Ça veut dire que le Parti communiste chinois a le contrôle et le commandement politique de l'armée populaire de libération. Donc, alors que l'armée chinoise donc s'intelligentise, eh bien, la commission centrale des affaires militaires du Parti communiste doit elle aussi s'intelligentiser. Donc, on a une militarisation de l'intelligence artificielle par l'armée chinoise qui se prolonge dans, comment appeler ça, la politisation, administratisation, intelligentisation du Parti communiste. Donc, on a là des hybridations hallucinantes qui se font à toute vitesse. Et il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, et on invente en marchant, quoi. Ce sont des dynamiques énormes qui sont en place. Par ailleurs, l'architecture IA militaire chinoise est aussi conçue avec toute une dimension de cyberguerre extrêmement forte qui vise à être capable de casser l'architecture IA américaine pour faire en sorte que l'intégration des forces armées américaines au sein d'une même architecture puisse être annulée. Donc, on voit bien ces effets miroirs qui sont aussi la nouvelle course aux armements entre grandes puissances.
Justement, dans cette confrontation entre les grandes puissances, je sais que c'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, celui du changement climatique, on voit que dans cette compétition entre grandes puissances, que ce soit les États-Unis, la Russie, la Chine, cette compétition, elle est de plus en plus impactée à la fois par la question du changement climatique, de l'accès aux ressources et maintenant par l'intelligence artificielle. Comment vous voyez l'intrication en fait de ces trois phénomènes ?
Alors ça, c'est une sacrée question. C'est une sacrée question. Prenons la question de l'accès aux ressources. Alors, l'accès aux ressources en 2024, ça veut dire pour des grandes puissances géopolitiques et géoéconomiques comme les États-Unis ou la Chine, ça veut dire être capable d'accéder aux ressources nécessaires pour leur vie quotidienne. Donc, l'énergie, l'alimentation, les minéraux, etc. Et ça veut dire les métaux, évidemment, hein. Et ça veut dire aussi être capable d'accéder aux ressources nécessaires pour développer l'intelligence artificielle. Et dans ce dernier cas, eh bien, il y a une espèce de, comment dire ça, de militarisation de l'industrie qui est en cours. Je m'explique. Pour développer l'intelligence artificielle, il faut pouvoir accéder à des minéraux, des métaux que l'on appelle des terres rares. Mais les terres rares, il faut les extraire. Hein. Donc ça, c'est de la mine, c'est classique. C'est de l'industrie minière, tout à fait classique. Mais ensuite, il faut pouvoir les raffiner. Or, la Chine a développé, si j'ai bien les chiffres en tête, plus de 60% des capacités mondiales de raffinage des terres rares. Les États-Unis n'ont pas cette capacité de raffinage. Ce qui fait que les entreprises américaines, comme l'armée américaine, ont besoin de passer par les capacités de raffinage chinoises pour développer leur capacité d'intelligence artificielle. Or, depuis 2018, et donc durant la première présidence de Donald Trump, eh bien, une guerre commerciale, douanière et technologique de plus en plus dure a été lancée par les États-Unis contre la Chine, application des sanctions économiques. Et là, la Chine est en train de commencer à lancer des représailles sur leur capacité à raffiner ou non les minéraux critiques dont ont besoin les Américains. Voyant cela, les Américains se disent qu'il faut qu'eux aussi développent leur capacité de raffinage. Et tout ça, c'est de l'industrie. Hein. Ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas d'un claquement de doigts. Et il y a des gros investissements, des investissements énormes qui sont faits. Mais ces investissements, ensuite, il faut un temps certain pour pouvoir les matérialiser. Par exemple, les Américains, pour sécuriser leur approvisionnement en puces de dernière génération ultra puissantes et ultra réduites, travaillent avec l'entreprise taïwanaise TSMC et ils ont beaucoup soutenu TSMC pour que l'entreprise donc monte une usine en Arizona de façon à éviter que l'approvisionnement en puces ne soit interrompu par une éventuelle bataille de Taïwan ou un embargo chinois sur Taïwan. Donc en fait, la course à l'intelligence artificielle, c'est aussi la course à l'industrie minière, c'est la course à l'énergie, c'est la course au cerveau, c'est la course à l'uranium. D'ailleurs, je vous conseille très très vivement de lire la série d'articles d'Hélène Lavoie sur Red Team Analysis Society sur la géopolitique de l'uranium, puisque ben, tant pour les industries de l'IA que pour faire fonctionner les algorithmes et les réseaux neuronaux, il faut énormément d'électricité. Donc, il faut en produire, donc il va falloir construire des centrales nucléaires. Et en fait, la course à l'IA et à sa militarisation est en train d'avoir des effets stratégiques, géopolitiques, géoéconomiques et industriels qui sont gigantesques.
On parle beaucoup de la Chine, de la Russie, des États-Unis, assez peu de la France et de l'Europe pour l'instant. Quelle est la place, justement, de la France et de l'Europe dans le domaine de l'intelligence artificielle militaire, ou en tout cas de la militarisation de l'IA? Et notamment, en tout cas, moi, j'ai une question sur les drones. Et il y a cette question de, en tout cas en France et en Europe, de les drones militaires, oui, l'intégration de l'IA, oui. Pour autant, il y aura toujours un homme dans la boucle pour contrôler et prendre la décision. Et en même temps, ce qu'on voit en Russie, notamment, on a l'impression qu'il a tendance à aller à l'automatisation et à l'autonomisation. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir résister un petit peu à ces sirènes du drone autonome et de leurs avantages opérationnels tactiques, même si j'ai bien compris dans ce que vous disiez qu'il n'y aura pas que des drones autonomes, mais ça sera une partie de l'arsenal?
Alors, pour faire une mauvaise plaisanterie, hein, en reprenant ce que vous venez de dire, j'ai envie de dire que les sirènes, on les entend quand les drones arrivent. Hein. Mais ce n'est pas qu'une mauvaise plaisanterie. Alors, la question de la France. Alors, moi, ce que je trouve très frappant, c'est que pendant 30 ans, hein, depuis la chute de l'Union soviétique, la France s'est livrée à une démilitarisation importante. Hein. Donc, une réduction de la taille des armées, une réduction de la taille des industries de défense, et aussi, j'appellerais ça une sorte de désarmement intellectuel et cognitif. On a pris très au sérieux le concept de Fukuyama de fin de l'histoire, c'est-à-dire en fait de fin de la guerre, hein. C'était ça dont il parlait, Fukuyama, de fin de la guerre. Et la globalisation a eu lieu au moment où beaucoup d'intellectuels et beaucoup de responsables ont pensé que la France et l'Europe allaient pouvoir bénéficier de ce qu'on appelait les dividendes de la paix. Bon. Alors ensuite, la question de la guerre semble être repoussée à la périphérie immédiate, les Balkans, hein, avec la guerre en ex-Yougoslavie, tout le monde semble avoir oublié, qui n'a pas été oublié par les pays balkaniques, ça faudrait quand même se rappeler. Et par ailleurs, donc, les opérations au Mali, la présence française dans le Sahel, tout ça donnait l'impression que la guerre était désormais à la périphérie. Les spécialistes d'histoire romaine diraient que c'était le limès sud. Bon, très bien. Sinon, il faudrait C'est intéressant de se rappeler que, par exemple, dans la bande sahélienne, il y a notamment le Niger, et que le Niger a quand même été pendant longtemps un de nos importants centres de production d'uranium, hein. Donc tout ça n'est vraiment pas anodin. Mais ce que on ne peut qu'observer depuis 2 ans, c'est que, à nouveau, la question de la guerre est prise très au sérieux. Et la question du rôle de l'intelligence artificielle dans la défense commence à être formalisée de façon tout à fait active, hein, avec la création de l'Agence pour l'intelligence artificielle dans la défense. Donc, cette agence qui a été créée, si je ne m'abuse, au printemps 2024. Donc, tout ça est récent. Mais en même temps, l'intelligence artificielle, c'est récent. Par ailleurs, il faut noter que le chef d'état-major des armées, Thierry Burkhardt, est extrêmement engagé sur la question de la modernisation de l'armée française et sur les effets stratégiques de l'intelligence artificielle. Donc, il y a vraiment une prise en compte des basculements stratégiques et des basculements technostratégiques qui sont en cours par l'armée française. Alors ensuite, évidemment, ça se fait dans un contexte où pendant donc une trentaine d'années, il y a vraiment eu une grosse atténuation de la capacité militaire française. Donc tout ne va pas être résolu en deux temps, trois mouvements. Hein. Néanmoins, il y a un trend qui il y a une tendance qui s'installe, qui se met en place. Par ailleurs, il faut noter que dans le décret de création de l'Agence de l'intelligence artificielle pour la défense, il est spécifié que l'agence doit faire en sorte que l'intégration de l'IA par l'armée française doit aussi être compatible avec les forces armées de l'OTAN et avec des industries et des technologies de nos alliés. Donc, en fait, c'est une militarisation française de l'intelligence artificielle qui prend en compte que nous sommes évidemment membres de l'OTAN. De même que d'ailleurs, l'OTAN, tant ses différents membres que dans ses instances, est en train d'intégrer cette question de l'intelligence artificielle. Donc, d'un côté, il y a un retard, hein, ça c'est discutable, puisqu'il y a eu comment dire, cet espoir que la guerre allait bientôt faire partie du passé, mais face à ce grand retour de la guerre, présent et malheureusement peut-être futur, eh bien l'armée française est tout à fait active. Alors, pardon, j'ai failli oublier la deuxième partie de votre question, donc sur la question donc l'IA, l'éthique, etc. Moi, j'ai le sentiment qu'on confond deux débats. Le débat sur l'intelligence artificielle et l'éthique, c'est-à-dire la place de l'être humain dans les processus d'utilisation de l'intelligence artificielle, elle ne peut pas se poser de la même façon dans le domaine militaire que dans le domaine civil. Or, j'ai l'impression qu'on transpose l'un dans l'autre. Ça n'est pas possible. D'accord? Ça n'est pas possible parce que, bon, on peut le déplorer, hein, mais l'éthique de la guerre, ce n'est pas la même chose que l'éthique de la paix. Ça se saurait d'ailleurs, hein, si c'était le cas. Alors, bon, là, je vais peut-être déclencher des hurlements, hein, mais comment dire, en situation de guerre, l'impératif catégorique, c'est de gagner. En situation de paix, l'impératif catégorique éthique, c'est d'éviter la violence. Si on parle de guerre, si on parle de militarisation de l'intelligence artificielle, on ne peut pas ne pas parler de violence. Vous voyez, c'est impossible. Donc, alors évidemment que la décision opérationnelle finale, elle reste au corps des officiers, elle reste aux généraux, elle reste aux politiques, évidemment. Évidemment. Maintenant, moi, je serais très... Si je faisais partie des acteurs de ce débat, mais moi, je suis un analyste, hein, je suis pas... Hein. Si je faisais partie des acteurs de ce débat, je serais quand même très attentif à distinguer l'éthique en temps de guerre de l'éthique en temps de paix.
On arrive à la fin de l'épisode. J'ai une dernière question pour vous, un petit peu plus prospective, on va dire, avec l'utilisation de plus en plus importante de l'IA dans le domaine militaire. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu comment vous voyez son utilisation là dans les peut-être 10 prochaines années, que ce soit dans le domaine militaire et géopolitique? Et surtout, quels sont les changements que vous envisagez dans les relations entre les grandes puissances? Et la question que j'aurais envie de rajouter aussi, ça en fera beaucoup, mais comme ça permettra de clore cet épisode, c'est dans le domaine numérique, les GAFAM notamment, on voit cette tendance là qu'on appelle winner takes all, c'est que il y a une course à la croissance, au développement technologique qui permet à un acteur qui a été le premier de prendre toutes les parts de marché, donc de dominer les autres. Est-ce qu'on peut imaginer transférer ces notions-là dans le domaine des relations internationales et de se dire, un peu comme disait Vladimir Poutine il y a quelques années dans sa déclaration sur l'IA, que celui qui dominera l'IA dominera le monde?
Ce que vous évoquez, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai décidé de donner à mon bouquin le titre de hyperguerre. Hyperguerre, c'est pas pour faire joli, c'est pas un slogan. En fait, si on va regarder l'étymologie du mot hyper, ce terme permet de qualifier quelque chose qui est à la fois de supérieur et d'englobant. D'accord. Or, l'hyperguerre, donc la guerre qui est rendue possible par l'IA, eh bien, c'est cette guerre qui se traduit par la militarisation de tout. Vous voyez? Quand on évoquait au début de cet entretien que la militarisation de l'IA, eh bien, déjà, elle se traduit dans les pratiques conventionnelles de la guerre, c'est-à-dire l'échange de coups. Et l'IA donc devient un multiplicateur de force, mais aussi un outil de cyberguerre, mais aussi un outil de guerre cognitive. Mais ces trois domaines ne sont pas isolés les uns des autres. Ils sont menés ensemble. D'accord? De même que ce qu'on évoquait il y a quelques instants en ce qui concerne la compétition pour l'accès aux ressources et la compétition industrielle, scientifique, technologique, économique qui en découle, ce que l'on voit bien, c'est que là aussi, il y a une militarisation de nombreux processus économiques et sociaux. Donc, en fait, moi, un risque que je vois émerger assez rapidement, c'est que justement, l'hyperguerre induite par la militarisation de l'intelligence artificielle, n'induisent en fait une militarisation de tout ce qui va être touché par l'intelligence artificielle. Or, qu'est-ce qui ne va pas être touché par l'intelligence artificielle? Le champ de l'intelligence artificielle est en train d'absorber les sociétés contemporaines. Moi, par exemple, je vois arriver avec beaucoup d'inquiétude les évolutions agricoles. Et d'ailleurs, on est dans une période de grande tension agricole, hein, comme on le voit avec les manifestations des agriculteurs français et européens. Alors, justement, ce qu'il faut bien voir, c'est que déjà depuis quelques années, les grands opérateurs de l'intelligence artificielle sont devenus des acteurs agricoles. Aux États-Unis, IBM est devenu le premier fournisseur de services pour les agriculteurs américains, en lien notamment avec le producteur de tracteurs John Deere. Alors les tracteurs aujourd'hui, c'est plus des tracteurs, hein, c'est des robots IA, c'est Terminator au champ, un tracteur John Deere, hein. Et donc il y a une installation de capteurs extrêmement fins dans les champs de manière à pouvoir identifier le taux d'humidité des sols, quels sont les besoins en pesticides à tel moment, etc. Donc, une approche extrêmement fine des choses. Alors, évidemment, tout ça est encore imparfait, hein, mais comme dans tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, on est dans des dynamiques de progrès continu. Or, si l'agriculture est englobée dans le champ de l'IA, eh bien, la militarisation de l'IA induit la militarisation de l'agriculture. Mais la militarisation, ça peut être moi qui suis à l'offensive ou moi qui suis sur la défensive. D'accord? Et j'ai vu passer des articles de prospective sur justement des stratégies d'intervention de cyberguerre contre des systèmes agricoles. Si, par exemple, vous parvenez à hacker tel ou tel cybersystème agricole, vous pouvez hacker les flux de données, complètement changer l'interprétation de ce qui se passe dans les champs, et dire, ben voilà, il faut moins d'eau ou plus d'eau, il faut plus d'engrais ou moins d'engrais, ce qui peut avoir des effets très douloureux sur, in fine, la production de nourriture dans un pays donné. Donc, la militarisation de l'IA, pour moi, elle débouche sur l'hyperguerre, c'est-à-dire l'englobement des sociétés dans la guerre à des niveaux de finesse qu'on n'a pas encore connu.
Merci beaucoup, Jean-Michel, d'avoir répondu à mes questions, et puis j'espère à bientôt, alors.
L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.